Vous écoutez
RMC.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous. La nuit continue sur RMC, les nuits de l'after, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 5h du matin après la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Place dans 1h10 précisément au dernier quart de finale du Mondial entre l'Argentine et la Suisse. Pour m'accompagner sur RMC, sur After Foot TV, également sur la chaîne YouTube de l'after, Maxime Chano est-il là? Salut Max, il n'est pas là, il arrive dans un instant. Julien Laurence est-il là?
Salut Nico, salut à tous.
Ça va Jules? À New York, hein, en direct
super,
de New York. Super,
toujours à New York, toujours au Café Luce, chez
magnifique, Eddy, qu'on salue bien. Younes Belandet est également avec nous, salut Younes.
Salut, bonsoir à tout le monde.
Heureux de te retrouver, cher Younes, bien sûr. On aura plein d'invités dans cette heure d'avant-match. Renato Civelli sera avec nous avant le quart de finale Suisse-Argentine, bien sûr. On va revenir aussi sur la qualification de l'équipe d'Angleterre et prendre dans un instant la direction de Boston, où les Bleus ont réalisé leur avant-dernier entraînement avant de prendre le chemin de Dallas pour leur demi-finale mardi soir face au Maroc. On est ensemble jusqu'à 5h du matin. Vous le savez, envoyez vos messages dans le chat, évidemment. On en lira certains, bien sûr. Vous êtes nombreux à réagir à la qualification de horrible, selon vous, de l'Angleterre face à de vaillants Norvégiens. Allons tout de suite. Ah, on fait des briefs d'abord? D'accord, ok. Jérôme Sion n'est pas encore prêt. Il est sur place à Kansas City pour le Suisse-Argentine. D'abord, on va débriefer, les amis. Tiens, je commence avec toi, Younes. L'Angleterre est là, à son rendez-vous pour une troisième demi-finale seulement de Coupe du Monde à venir. Ce sera soit face à l'Argentine, soit face à la Suisse. Que retiens-tu globalement de la prestation des Anglais?
Oh, je retiens Bellingham, hein, comme d'habitude depuis le début de ce tournoi. C'est Bellingham qui les sauve, c'est Bellingham qui a la construction, c'est Bellingham qui a la finition. Donc voilà, après il y a quelques fulgurances des fois de Gordon qui essaie de le supplier. Un Kane qui occupe bien les espaces. Sur le côté droit, t'as de temps en temps des fulgurances de Saka ou Moudeke en première mi-temps, mais c'est vraiment light un peu. Donc voilà, je retiens le plus c'est Bellingham avec tout ce qu'il fait pour cette équipe d'Angleterre. Comme je t'ai dit, il est à la construction, il redescend, il finit devant le but, il se projette toujours bien et il sent le football. Et heureusement qu'ils ont un Bellingham parce que sinon il se qualifie pas.
Hein. Exactement. Julien, est-ce qu'on peut être critique avec cette bien Angleterre sûr. Qualifiée quand même pour la demi-finale? C'est un moment historique, hein, pour les Blue Lions.
Ouais, bien sûr. Alors, ils étaient en demi-finale déjà en 2018, bien sûr, parce qu'ils avaient perdu contre la Croatie, qui ensuite avait perdu contre la France. Mais on va répéter ce qu'on a dit quasiment après chaque match de cette Coupe du Monde, hormis peut-être après la seconde période contre la Croatie lors de leur premier match de phase de poule. Mais c'est encore un peu laborieux, trop laborieux, c'est encore trop décevant dans la globalité. Alors oui, la prolongation, ils sont au-dessus parce que physiquement, ils sont au-dessus parce qu'ils ont un meilleur banc que les Norvégiens. Ils ont plus d'expérience que les Norvégiens aussi, qui étaient un petit peu naïfs et un petit peu limités finalement. Et le but vainqueur vient d'une erreur de Nyland dans les buts aussi. Mais sinon, encore une fois, je trouve que collectivement, si effectivement, comme a dit Younes, si t'as pas Bellingham, le reste, c'est pas du tout convaincant. T'as sorti Rice à la pause, Madueke à la pause. Alors Rice avait été malade toute la semaine quasiment. Donc c'était compliqué peut-être de jouer un match pareil dans cette chaleur-là et cette humilité-là. Et puis avec surtout ce qu'il y a comme enjeu. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas le faire débuter, parce que c'est vrai que l'Angleterre, surtout en seconde période notamment, a été très très moyenne, trop moyenne par rapport au talent qu'elle a. Et après, en revanche, le positif pour moi, dans tous les changements que Tuchel a fait, et parfois il a fait un peu n'importe quoi, j'ai trouvé, le changement décisif, c'est Morgan Rogers qui entre finalement en milieu défensif aux côtés d'Eliot Anderson et qui frappe sur le but repoussé par Nyland pour le but de Bellingham. Donc la trouvaille Roger, sincèrement, hein, qui est un deuxième attaquant pour Villa, que tu fais jouer comme ça beaucoup plus bas, chapeau à Tuchel.
Bon, là on a les images, hein, des Norvégiens qui applaudissent leurs milliers de supporters au Hard Rock Stadium de Miami. Valeureux Norvégien, on en dira un mot dans un instant, bien sûr. T'as commencé à parler de Bellingham tout à l'heure, Younes. Bellingham, ouais. L'histoire est belle parce que on a compris les tensions. Tuchel en attendait beaucoup, notamment de la discipline sur le terrain, un comportement différent, plus collectif aussi. Il n'était pas là lors du rassemblement en octobre dernier. Il est réapparu en début d'année. Enfin, l'histoire, elle est dingue. Et on trouve un Bellingham façon Real, tu sais, avant que Mbappé arrive, hein, quand il avait un rôle offensif.
Ouais, c'est vrai. Mais en plus, même dans le pressing, tu l'as vu quand Rice est sorti, lui, il est passé en 6 à sa place. Et on a vu que le pressing de l'Angleterre, il était moins bon avec un Eze qui était placé à sa position en 10. Et ils ont pris un peu le large, le milieu était un peu. Il y avait un peu un trou dans le milieu. Et quand il a été replacé en 10 et aisé sur le côté, ça a été beaucoup mieux pour l'Angleterre. Donc voilà, il est dans le pressing, il est dans la construction et on voit qu'il est épanoui. Il s'associe bien avec Kane qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il prend bien les espaces, donc il focalise les deux centraux et lui il arrive à toujours à bien se positionner, couper au premier poteau ou sinon aller dans le dos de Kane et se retrouve souvent seul parce qu'il vient de loin et c'est dur pour des défenseurs de ils le voyaient pas arriver, donc c'est dur pour eux. Mais dans l'engagement, dans le pressing, on l'a vu jusqu'à la 97e minute.
Eh oui.
Il faisait du pressing à gauche, à droite. On voyait mettre les mains sur les genoux, mais il a sans cesse répété les efforts. Et c'est un joueur de qualité, de classe mondiale, comme vous l'avez dit. Quand il arrive au Real Madrid, c'était avant que Mbappé il arrive, on comptait sur lui, sur Vinicius, mais plus sur lui, on le voyait encore plus. Et c'est un joueur de talent. Il a encore démontré ce soir. Et
bravo Thomas Tuchel, hein, Julien. J'imagine. Bravo Thomas Tuchel.
Ouais. Ouais, parce que la façon dont il a géré le cas Bellingham, alors on a beaucoup parlé, nous, avec les drôles de dames et toi, Nico, le lundi soir. Il y a eu beaucoup de débats ici en Angleterre sur, à un moment même, sur est-ce qu'on doit emmener Bellingham à la Coupe du Monde, est-ce qu'il doit débuter pour cette équipe-là, tout ça. Mais qui était tout à fait justifié, hein. C'était pas, les gens se faisaient pas des films ou quoi que ce soit. C'était vraiment la situation. À ce moment-là, il y avait ce vrai point d'interrogation sur l'avenir de Bellingham autour de cette Coupe du Monde dans cette équipe d'Angleterre. Et je pense que Tuchel a très bien su gérer tout ça. Alors, déjà, ne pas l'appeler, je pense que ça a été une petite piqûre de rappel finalement pour Bellingham. Ensuite, quand il l'a rappelé, ils ont eu des longues discussions ensemble sur notamment l'attitude hors terrain, sur le terrain, et ce que Tuchel espérait de lui, ce qu'il allait lui demander aussi. Et après, c'est facile, hein. Younes a été dans ce rôle-là. Soit t'écoutes et tu fais ce que le coach te demande, soit tu fais pas, puis à un moment, ça va pas marcher, quoi. Et pour Bellingham, qui est quand même un garçon, alors, il a eu des défauts, ça c'est sûr, il y a eu des problèmes par le passé, ça c'est sûr aussi. C'est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et à un moment, il voulait pas rater non plus cette Coupe du Monde, où il avait aussi des choses à prouver finalement, parce que la saison dernière avec le Real, entre les blessures et les contre-performances, avaient vraiment pas du tout été satisfaisantes. Donc c'était aussi, il jouait beaucoup aussi sur cette Coupe du Monde, lui, individuellement, par rapport à son statut d'un des meilleurs milieux de terrain du monde.
Exactement, Bellingham qui retrouvera Mbappé à Vinicius à la rentrée sous maillot du Real Madrid. Comment vous jugez le match d'Harry Kane, qui est le héros anglais de ce mondial pour l'instant, Younes?
Ah, le héros c'est Bellingham, oh, mais... Nico.
Oui, maintenant, le ce héros, soir, c'est... Mais, jusqu'à
non,
présent.
Mais non, c'est sur tout l'ensemble.
Pour toi, c'est Bellingham plus que Kane.
Ah, c'est le meilleur joueur.
Après, d'Harry Kane.
Il profite des appels de Kane où il occupe très très bien les espaces. Il vient de temps en temps dans le milieu de terrain quand il touche pas le ballon, ce que ne fait pas Haaland. Lui, il le fait. Il vient un peu dans le milieu de terrain. Il libère des fois les espaces pour Bellingham. Donc l'association, elle est très très bonne entre les deux. Donc il sert, il marque des buts quand il faut les marquer et il occupe très très bien les espaces. Et ce qui fait que Bellingham marque autant de buts aussi.
Bon, Julien, je parlais avant ce match, hein, OK, Bellingham fait un excellent mondial. L'homme qui a sauvé l'Angleterre, notamment contre le Mexique, c'est aussi contre le Congo, c'est aussi Harry Kane. C'est pour ça que je parlais d'Harry Kane.
Non, sur ce double-là, oui, sur ce double-là, t'as raison. Après, dans l'ensemble, c'est la Coupe du Monde de Bellingham. Tu vois, aujourd'hui, Kane, c'est expected goals 0,1. Il a deux tirs cadrés, il touche le ballon 37 fois en 120 minutes. Donc le ballon, il lui arrive jamais, en fait. Alors oui, je suis d'accord avec Younes dans le sens où il occupe les centraux, bien sûr. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très collectif aussi, qui joue pour l'équipe, qui joue pour le groupe, très bien. Mais quand t'as un des meilleurs numéro 9 du monde, imagine si Kylian touchait aussi peu le ballon quand il jouait avec nous, par exemple, on serait là à dire mais pourquoi on le sert pas plus. Donc à un moment, il va falloir en demi-finale, peu importe la Suisse ou l'Argentine, et puis après j'espère pour les Anglais en finale, à un moment pour gagner, là tu gagnes très bien sans Kane, mais à un moment il va falloir plus que tu serves Kane, que t'arrives plus à le trouver, surtout contre des blocs plus bas comme on l'a vu en première période contre ces Norvégiens.
Bon, t'as dit le banc a fait la différence aussi. Bukayo Saka est entré dès la reprise. Il y a eu le choix de Madueke, hein, Julien. Je sais pas comment tu le lis, toi. Plutôt que Bukayo Saka, Saka qui a fait quelques figurances, hein, notamment en deuxième période en prolongation.
Ouais, c'est dommage, hein, pour les Anglais qu'ils aient pas un Saka à 100%. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait une titularisation une fois sur le banc, une titularisation une fois sur le banc. Tuchel a jugé qu'il n'était pas prêt, assez prêt physiquement aujourd'hui pour tenir le rythme dans un match pareil. Alors je pense qu'il pensait aussi que le match serait peut-être un petit peu plus ouvert que la première période où finalement on a eu surtout la première demi-heure, on va dire, les Norvégiens attendu très bas et ont choisi de contrer plus qu'autre chose. Donc mais oui, Saka, quand il est pas à 100%, c'est plus compliqué. Tu mets Madueke parce que Madueke, il a du feu dans les jambes. Alors
oui, mais qui est toujours aussi brouillon, Julien, toujours aussi brouillon. Mon Dieu,
ses trois premiers ballons, c'est un centre,
ouais, voilà.
Un centre en 6 mètres, il est hors jeu sur le deuxième ballon et le troisième ballon, il fait main, exactement. Donc c'est c'est compliqué aussi. Madueke, c'est pas le même niveau. C'est un bon joueur de banc, un bon joueur de ton effectif, mais c'est pas un titulaire en puissance pour une équipe qui veut gagner la Coupe du Monde.
Il faudra un Saka à 100%. Parce que si on se projette, les gars, Younes là, est-ce que t'imagines ces Anglais là, ce qu'ils proposent dans le combat, dans l'élaboration du jeu, aller au bout dans ce mondial?
Ah non, mais dans le combat, ils sont prêts à souffrir aussi de temps en temps. On l'a vu contre le Mexique, où le Mexique, vous rappelez, ils ont fait 2 milliards de centres. Ils ont pas mis un but parce que derrière c'est très costaud, où ils sont passés à la fin à 5. Donc pour faire des centres et essayer de te prendre de la tête, ça va être très très dur. Dans le milieu de terrain, ça se bat beaucoup. Ils savent encaisser, ils savent prendre des chocs. Mais comme vous l'avez dit, c'est sur les côtés où moi je trouve que c'est un peu light, comme Saka qui n'est pas à 100%. Moi j'ai bien aimé les deux derniers matchs de Gordon où on s'attendait pas à lui. Je m'attendais plus du côté droit où il y aurait plus de feu, plus de provocation, mais ça vient du côté de Gordon, donc tant mieux pour l'Angleterre. Mais il va falloir un peu de différence aussi sur le côté droit pour un peu égaliser un peu les côtés et les attaques du côté anglais. On sait très bien qu'un Bellingham aime bien se projeter, donc il faudra aussi un bon milieu de terrain qui alimente, comme vous avez dit, Kane qui reçoit pas beaucoup de ballons. Mais le fait que Bellingham se projette beaucoup dans la surface, eh ben c'est le jeu d'Angleterre, ça devra venir des côtés.
Exactement. Bon, on peut imaginer qu'il y a une possibilité, comme Julien, pour que Saka débute la demi-finale. Sera mercredi.
Ouais, je pense.
J'imagine qu'à ce niveau-là de la compétition, je pense qu'on peut raisonnablement imaginer Saka titulaire. Et il y a un gars qui a fait une super entrée, Jules. C'est Jed Spence, hein, l'ancien Rennais là.
Ouais.
Mon Dieu. Alors, c'est évidemment, c'est le jour et la nuit. Hein. C'était un gamin quand il était à Rennes. Là, il a 25 piges, franchement.
Très bon. Ouais, moi qui ai été très critique, enfin assez critique on va dire, sur son inclusion dans ce groupe-là, parce que pour moi, j'aurais pris un autre milieu de terrain, comme un Wharton par exemple, ce qui aurait évité de voir Rodgers en 8 aujourd'hui par exemple, ou même un Gibbs White, voire Foden Palmer. On avait longtemps discuté, rappelle-toi aussi, avec Max et Kevin et tout ça. Et là, Spence, j'avoue, sur ce qu'il a montré là aujourd'hui, parfait. Hein. Rich James, très bien aussi, de revenir de blessure, de jouer milieu de terrain, de jouer arrière droit, d'assurer comme il a pu le faire. Après, il y a beaucoup de réussite côté anglais, hein, c'est sûr. Le but refusé déjà pour les Norvégiens, la tête derrière sur la transversale. Mais je pense que tu arrives à un moment aussi où tu gères ces moments faibles beaucoup mieux que par le passé, où tu as un petit peu de réussite, mais de toute façon toutes ces grandes équipes là à un moment elles ont de la réussite aussi, et c'est comme ça aussi que tu vas si loin. Moi, la demi-finale, que ce soit la Suisse ou l'Argentine, ça m'inquiète pas du tout pour les Anglais. Je pense qu'ils sont supérieurs à ces deux équipes là
ouais.
En revanche, une finale contre la France ou l'Espagne, là je pense que c'est beaucoup plus compliqué. S'ils doivent courir après le ballon, s'ils jouent contre une équipe qui a plus d'intensité, qui a plus de joueurs qui peuvent faire la différence tout seul, ce qui n'était pas vraiment le cas de, si Haaland n'a pas une bonne position aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas de la Norvège, alors que l'Espagne et la France ont ce genre de joueurs là. Là, ce sera plus compliqué à mon avis. Mais moi, pour moi, ils iront en finale, et après on verra bien contre qui en finale.
En finale, on suivra la demi-finale, le dernier quart de finale Suisse-Argentine. On en parle dans un instant, bien sûr. On ira à Kansas retrouver Jérôme Sillon, et il y a plein de messages, Younes, Julien, concernant Jordan Pickford. On va rester encore un petit peu, n'envoyez pas la musique trop tôt. Pickford, on nous dit, mais tu peux faire une demi-finale de Coupe du Monde avec un gardien comme ça.
C'est incroyable.
C'est dingue, incroyable. Quoi.
Sur le but, il enlève sa main. Je pense qu'il croit qu'elle est dehors. Donc il enlève sa main.
T'as raison. C'est dingue.
Il la retire sa main.
Mais oui,
il la retire sa main. Et il y a trop d'erreurs.
Tout part du centre de Sorloth qui passe au-dessus. Et c'est lui, le ballon est largement au-dessus de sa transversale, et c'est lui qui va avec les mains. Ouais. Donc il donne le corner, et sur le deuxième corner d'après, c'est là où c'est là où il marque. Donc tout ça partait de son erreur, en fait, finalement. Il y a une tête d'Haaland qui va à deux à l'heure, qui pourrait limite contrôler avec son pied, il la remet en corner, ouais, il fait n'importe quoi, tu vois. Je sais pas.
Non, c'est limité avec les mains. Après, avec les pieds, j'aime bien, la relance, j'aime bien, mais franchement, avec les mains, c'est limité un peu.
Ouais, alors Pickford, on verra.
Mais bon, ils ont une bonne défense. Après, ils ont subi contre le Mexique, tu l'as vu, à 10 contre 11. Ils ont une bonne défense, tu vois, mais avec des équipes comme la France et même l'Argentine, hein, où Messi peut mettre des bons ballons à la Toro Martinez, ou sur les côtés, ça va vite. Tu peux flancher avec un gardien comme ça.
On verra ça, mais c'est vrai que le travail de Johnson Marguerite, solide Marguerite aussi, Julien. On a peu parlé pendant ce mondial, nous, dans l'after.
Qui était incertain aussi.
Incertain
pour le match. Il avait mal aux ischios. Il sort un gros match en plus contre Haaland. Lui et Stones, alors ils se connaissent de club, mais ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, parce que Stones n'a pas beaucoup joué cette saison non plus. Donc, grosse performance défensive, mais défensivement, ils ont, malgré tout, parce que parfois c'est un peu fragile, parfois c'est un peu bancal, parfois c'est un peu mal organisé. Et ils ont quand même, ils ont quand même tenu la baraque pendant cette Coupe du Monde, assez en tout cas pour arriver déjà en demi-finale. Donc ça, même s'il y a des progrès à faire dans l'utilisation du ballon aussi, parfois dans la conservation du ballon, ça reste une équipe en demi-finale, quoi. Et c'est et ça, oui, en soi, c'est vraiment intéressant. Tu vois, tu passes une défense à 5, tu fais rentrer Dan Burn, par exemple, qui fait 12 000 mètres de haut, qui va tout prendre de la tête. T'es solide. Maintenant, t'as ce, tu crois en toi aussi beaucoup plus que lors du début de la compétition. Tu vois, après tout ce que tu viens de franchir, là, tous ces paliers que tu viens de franchir.
Même si t'as pas progressé vraiment, Julien. Même si t'as pas forcément progressé.
C'est ça. Oui, bien sûr. Mais t'es là où il faut être.
T'es là pour la troisième fois dans l'histoire. Hein, ça paraît dingue. 66. Il avait gagné à domicile la Coupe du Monde. Et puis tu as raison, 2018. Pour les hommes de Thomas Tuchel, qui est aussi le visage de cette sélection anglaise, qualifiée pour les demi-finales. Un mot sur la Norvège quand même. C'est ce que disait Julien à l'instant, Younes. C'est là ce qui fait la différence dans ce mondial, évidemment, c'est la profondeur de banc, quoi. On le voit avec l'équipe de France, on le voit avec l'Espagne, on le voit avec l'Angleterre. À un moment, sur une telle durée, sur une telle compétition, ce qui te fait passer les tours, c'est ça avant tout, quoi.
Bien sûr.
Par rapport
bien
à
sûr,
la Norvège.
T'as une profondeur de banc, et après, je pense que les choix, ils n'ont pas été bons avec un Sorloth qui a joué côté droit.
Ça, c'est un mystère.
Il a rien à faire.
Ça, j'ai pas compris.
Donc, c'est
pas
Oscar Bob, Moussa, éventuellement, mais c'est dingue, je comprends pas.
Alors tu te dis, si tu veux le faire jouer, tu joues avec deux pointes où il peut retravailler dans le milieu de terrain comme un faux numéro 9, un 10 pour défendre. Mais le faire jouer côté droit, moi j'ai pas compris. Et après un Haaland où c'est pas pareil qu'avec Manchester City où t'as des joueurs autour qui bougent beaucoup, qui permutent beaucoup. Et ben là tu le vois pas, il est complètement transparent et tu le vois après il sort, je sais même pas si c'est pas les joueurs à un moment donné qui s'est plaint de lui sur le côté où il essaie de lui faire une passe, je crois qu'il y a le banc qui lui parle et il s'est plaint qu'il a pas décroché. Donc je sais pas, mais après ça reste Erling Haaland, hein. Il te met des buts quand il veut sur un éclair, mais dans le jeu c'est trop pauvre.
Ouais, c'est trop pauvre. Évidemment, tu touches à la cuisse Erling Haaland.
Voilà, ça, c'est vrai qu'il est sorti. Après, tu payes pour apprendre. Hein. C'est un effectif qui est jeune en termes d'expérience de ces compétitions-là. Ils ont depuis 98, ils n'étaient pas allés à la Coupe du Monde, donc c'est la première pour cette génération, même pas d'Euro avant. Sûr. Pareil pour Solbakken. À un moment, t'es peut-être un petit peu naïf. Tu gères mal tes moments faibles, ça c'est sûr, et tes moments forts dans un sens aussi où tu dois prendre l'avantage. Et puis au final, tu payes quoi. Mais ils vont apprendre. Ça fait partie de l'apprentissage d'une équipe pareille. Et je pense que moi, sincèrement, l'Euro dans deux ans en Angleterre, où ils seront 12 milliards de Norvégiens, parce que c'est pas loin, ils ont de l'argent en plus pour venir. Ouais, il va falloir s'en méfier d'eux.
Bon, voilà ce que vous pouvez dire sur cette qualification de l'Angleterre face à la Norvège. Rendez-vous mercredi soir, soit face à la Suisse, soit face à l'Argentine.